Je sais pas comment je les coupe, hein, ouais. Avec audace.
Je vous invite à la prière.
Oh ben non, ça change.
Seigneur, comme l'avons chanté tout à l'heure, c'est ta voix que nous voulons entendre. Rends-nous, Seigneur, attentifs encore ce matin. Ton esprit, Seigneur, nous ouvre notre intelligence. Tu as quelque chose à nous dire. Et que nous puissions, Seigneur, non pas seulement les écouter, mais aussi, Seigneur, l'appliquer dans notre vie de tous les jours. Que cela puisse aussi nous pousser à la décision, à l'action. Oui, Seigneur, parle à nos cœurs encore au travers de ton serviteur, et puis que ton esprit vraiment agisse, nous illumine, nous éclaire. Merci, Seigneur, parce que ta parole est la vérité. En ton nom, Jésus. Amen. Voilà, donc, bonjour à tous. Alors, bonjour particulièrement à celles et ceux qui viennent nous visiter soit la première fois ou qui viennent de temps à autre et qui nous arrivent par exemple du sud-ouest ou d'ailleurs. En tout cas, merci. Il y en a peut-être qui viennent du sud aussi, du Gard, hein, si c'est bien ça. Voilà. En tout cas, soyez tous les bienvenus. Alors comme vous le savez certainement et comme l'a rappelé Christophe tout à l'heure, nous sommes en pleine période de Noël. Et comme beaucoup d'églises, nous avons à cœur de marquer cela en insistant sur la signification, sur la portée de Noël, la portée de la venue de Jésus, le Fils de Dieu. Et nous l'avons notamment fait lors de ce spectacle, hein, le 15 décembre dernier, samedi dernier, qui était un beau spectacle et à la gloire de Dieu. Alors le Seigneur m'a mis à cœur d'abord de dire quelques mots sur l'origine de la fête de Noël. Vous savez de quel terme vient le mot, de quel mot vient le terme Noël? Ça vient du terme latin natalis. Alors, je vois que Nathalie qui me regarde. Hein. Ouais. Natalis veut dire jour natal. Mais avant de continuer, il faut savoir qu'à un moment donné de l'histoire, l'homme qui a été créé par Dieu, il s'est détourné à un moment donné de son créateur et il s'est mis à des cultes idolâtres, il s'est mis à adorer notamment les astres, les étoiles, la lune, le soleil. Et c'est ainsi que dans l'Antiquité, beaucoup de peuples païens adoraient notamment le soleil. Il y avait les Européens, y compris les Romains, il y avait aussi les Égyptiens, les Syriens, les Perses, les Babyloniens. Et plus tard, d'autres civilisations aussi en Amérique centrale, en Amérique du Sud, comme le Mexique ou le Pérou. Et cette adoration du soleil ont amené ces peuples à fêter ce qu'on appelle le solstice d'hiver. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est le solstice d'hiver. C'est le moment à partir duquel les jours commencent à s'allonger. Donc là, mathématiquement, ça a commencé le 21 décembre dernier. Et pour eux, pour ces peuples, le solstice d'hiver était synonyme de renaissance du soleil. Parce que les jours s'allongent, il y a plus de soleil. Et ils ont appelé cette fête, donc le solstice d'hiver, le Natalis Sol Invictis. Voilà. Et ça signifie la nativité du soleil invincible. Et cette fête aurait été inspirée d'ailleurs d'une autre fête qui est d'origine perse et qui était la célébration de la divinité Mithra, qui était le dieu soleil des Perses, des Iraniens actuels. Et c'est devenu une fête officielle de l'Empire romain vers le 3e siècle avant Jésus-Christ. Après, pardon, de Jésus-Christ. Et au 4e siècle, toujours après Jésus-Christ, un empereur du nom de Constantin se convertit, semble-t-il, au christianisme. Et à partir de ce moment, le christianisme est décrété religion d'État. Et l'empereur, à partir de ce moment-là aussi, s'est activé à christianiser tout ce qui pouvait rappeler le paganisme. À la place des hôtels païens, on a bâti des églises. Et aussi, on a décidé de faire de la fête de Natalis Sol Invictis, on l'a remplacé par une fête en l'honneur du Christ. Et vers l'année 354, le 25 décembre, qui était d'ailleurs une petite erreur de calendrier, parce que ça aurait dû être le 21, le 25 décembre est décrété par le pape de l'époque qui s'appelait Liberius, est décrété donc comme étant le jour officiel de la naissance de Jésus, jusqu'à aujourd'hui. Mais il faut savoir que cette idée de changer la date d'une fête païenne en une fête qui célèbre la naissance du Christ venait quand même d'un souhait sincère de se débarrasser de tout esprit d'idolâtrie et de mettre le Christ en avant. Voilà donc un peu l'origine de la fête de Noël. Mais en réalité, on ne sait pas vraiment quelle est la date exacte de la naissance du Christ. Il y a plusieurs suppositions. D'abord, on suppose que l'hiver, comme il fait froid, et dans les montagnes il fait froid, il pleut souvent, semble-t-il, en Israël, ben, ce n'est pas forcément un moment propice pour que les bergers passent la nuit, toute la nuit dans les champs. Donc déjà, ce serait, semble-t-il, à écarter. On pense peut-être au printemps ou à l'automne, mais bon. En tout cas, il faut savoir qu'à cause de cette origine païenne de Noël, certains chrétiens ont des problèmes de conscience, ont des scrupules vis-à-vis de cette fête. Et ils refusent, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, de considérer Noël comme étant un jour spécial à célébrer, et pensent que c'est un piège pour le chrétien, ils pensent même que c'est une désobéissance de la part du chrétien de célébrer Noël. Et d'ailleurs, moi-même, j'ai été personnellement interpellé, il n'y a pas très longtemps, par des amis chrétiens à ce sujet, me demandant comment se fait-il que l'Église fête Noël alors que c'est une fête d'origine païenne. Et je me suis dit, il vaut peut-être la peine de se poser la question, d'essayer de démêler tout ça, et de se poser la question aujourd'hui. Alors, je suis désolé, je voulais faire un petit PowerPoint. Je suis parti dans mon message. On va le laisser tomber, le PowerPoint, parce qu'il y a des trucs à faire, des connexions, ça va prendre du temps. Mais la question qu'on peut se poser aujourd'hui, pour y voir plus clair, c'est: un chrétien est-il appelé à fêter Noël? Alors, vous avez trouvé cette question assez étrange, n'est-ce pas? Parce que la réponse à cette question peut paraître évidente à beaucoup d'entre nous, mais il se peut aussi que nous ayons été troublés par le fait que, effectivement, parce que je viens de dire que c'était une fête à l'origine qui était une fête païenne, et peut-être même que des personnes vous ont approché personnellement en disant « Mais vous savez ce que vous fêtez là? C'est une fête d'origine païenne. » Alors, la question peut se poser aujourd'hui. Et on peut tout à fait, légitimement, être troublé, pas savoir sur quel pied danser. Pour essayer d'y voir plus clair, eh bien, je vous invite à une lecture. Alors d'abord une question avant cette lecture, est-ce que ça vous est déjà arrivé en une demi-heure de lire le même passage? Le même passage biblique. Parce qu'on va le faire maintenant, on va lire exactement ce que vient de lire Christophe. De relire, oui, j'ai pas été assez clair, de relire le même passage. On va relire ce qui a été lu tout à l'heure dans Matthieu chapitre 1, verset 18, à partir du verset 18. Alors là, par contre, je peux demander à Nicolas de mettre ce passage. Et puis, on va aller un peu plus loin, on va aller jusqu'au verset 12 du chapitre 2. Matthieu chapitre 1, verset 18, jusqu'au chapitre 2, verset 12. Alors, c'est une répétition de tout à l'heure. Alors, ici, vous avez la version Louis II. Je ne sais pas si c'est possible d'avoir la version Sommer pour qu'on ait les... on soit dans... Enfin, c'est la même chose, hein. C'est à quelques termes près, mais comme ça, on est sur la même version, c'est toujours plus facile. Alors, je commence déjà. Voici dans quelles circonstances Jésus-Christ vint au monde. Matthieu, sa mère, était liée par fiançailles à Joseph. Qu'est-ce que j'ai dit? Marie, sa mère, pardon, était liée par fiançailles à Joseph. Or, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit, avant qu'ils n'aient vécu ensemble. Joseph, son futur mari, était un homme bon et droit. Il ne voulait pas la livrer au déshonneur. C'est pourquoi il se proposa de rompre secrètement ses fiançailles sans en ébruiter la raison. Il réfléchissait à ce projet quand un ange du Seigneur lui apparut en rêve et lui dit « Joseph, descendant de David, ne crains pas de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient de l'Esprit-Saint. Elle donnera naissance à un fils, tu l'appelleras Jésus. C'est lui en effet qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva pour que s'accomplisse cette parole du Seigneur transmise par le prophète. « Voici, la jeune fille vierge sera enceinte, et elle enfantera un fils que l'on appellera Emmanuel, ce qui signifie « Dieu avec nous ». À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait commandé. Il prit sa fiancée pour femme, mais il n'eut pas de relation conjugale avec elle avant qu'elle ait mis au monde un fils auquel il donna le nom de Jésus. On passe au chapitre 2. Jésus était né à Bethléem en Judée sous le règne du roi Hérode. Or, des mages venant de l'Orient arrivèrent à Jérusalem. Ils demandaient « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ?»« Nous avons vu se lever son étoile et nous sommes venus lui rendre hommage. » Quand le roi Hérode apprit la nouvelle, il en fut profondément troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il convoqua tous les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi que comptait son peuple, et il leur demanda où devait naître le Messie. « À Bethléem en Judée, lui répondirent-ils, car voici ce que le prophète a écrit. Et toi, Bethléem, village de Judée, tu n'es certes pas le plus insignifiant des chefs-lieux de Juda, car c'est de toi que sortira le chef qui, comme un berger, conduira Israël, mon peuple. » Là-dessus, Hérode fit secrètement appeler les mages et se fit préciser à quel moment l'étoile leur était apparue. Puis, il les envoya à Bethléem en disant « Allez là-bas, renseignez-vous avec précision sur cet enfant. Puis, quand vous l'aurez trouvé, venez me le faire savoir pour que j'aille moi aussi lui rendre hommage. » Quand le roi eut donné ses instructions, les mages se mirent en route et voici l'étoile qu'ils avaient vue se lever les précéder. Elle parvint au-dessus de l'étoile de l'endroit où se trouvait le petit enfant. Et là, elle s'arrêta. En revoyant l'étoile, les mages furent remplis de joie. Ils entrèrent dans la maison, virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombant à genoux, ils lui rendirent hommage. Puis, ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Cependant, Dieu les avertit par un rêve de ne pas retourner auprès d'Hérode. Ils regagnèrent donc leur pays par un autre chemin. Voilà, maintenant, arrêtez là notre lecture. C'est vraiment le récit de ce qu'on appelle la nativité. Et sur la base de ce texte, on va prendre quelques éléments de ce texte pour nourrir notre réflexion. Et j'aimerais, pour essayer de répondre à la question que j'ai posée en début de ce message, proposer trois grandes affirmations sur la naissance de Christ. La première affirmation, c'est que la naissance de Jésus, c'est un événement biblique. Même si Dieu n'a pas voulu laisser d'indice sur la date exacte de la naissance de son fils, il est frappant de constater qu'il y a beaucoup de textes qui parlent de cette naissance, qui appuient cette naissance comme étant un événement important. D'abord, cette naissance, elle a été prophétisée au moins 700 ans en arrière, avant la naissance de Christ en tout cas. Et fait donc partie du plan de Dieu pour le salut de l'humanité. Ésaïe, grand prophète, fait clairement allusion à une naissance pas comme les autres. Voici, la jeune fille sera enceinte, elle enfantera un fils, elle lui donnera pour nom Emmanuel, ce qui signifie, Dieu avec nous. Hein. Nous l'avons lu dans le passage de tout à l'heure, donc c'est un passage d'Ésaïe qui a été repris par l'évangéliste Matthieu. Ésaïe chapitre 7, verset 14. Et au moment où Ésaïe écrit cette prophétie, le peuple d'Israël est dans une situation difficile, il est menacé par des ennemis dangereux, et c'est dans ce contexte délicat pour Israël que Dieu fait une promesse, celle de la naissance future d'un enfant, quelqu'un qui va répondre aux aspirations du peuple. Et Ésaïe, toujours lui, revient sur ce même enfant au chapitre 9. Donc, versets 5 et 6, il dit « Car pour nous, un enfant est né, un fils nous est donné. Il exercera l'autorité royale, il sera appelé merveilleux, conseiller, Dieu fort, Père éternel, Prince de la paix, il étendra sans fin la souveraineté et donnera la paix qui durera toujours. » Donc, insistance encore sur la naissance de cet enfant et sur le rôle qu'aura cet enfant quand il sera grand. Un autre prophète qui s'appelle Michée donne, lui, des indications sur le lieu de la naissance. Dans Michée chapitre 5, au premier verset, il dit « Et toi, Bethléem Ephrata, la plus petite des villes de Juda, de toi sortira pour moi celui qui règnera sur Israël. Son origine remonte au temps passé, aux jours anciens. » Effectivement, 700 ans plus tard, puisque Michée est le contemporain d'Ésaïe, 700 ans plus tard, Jésus est né. Et les évangélistes donc affirment que sa naissance n'est autre que l'accomplissement des prophéties. Les prophéties d'Ésaïe et Michée sont citées dans le texte qu'on vient de lire. Dans le verset 23, le verset 23 du chapitre 1, le verset 6 du chapitre 2, et l'applique à la naissance de Jésus. Alors, tout cela, frères et sœurs, c'est pour dire que Dieu a voulu donner une importance particulière à la naissance de son Fils, de celui qu'il a élu pour accomplir l'œuvre de libération de l'humanité. Et si cette naissance est mentionnée, insistée clairement dans la parole, c'est que Dieu a voulu, par la bouche de ses prophètes, par la bouche des évangélistes, annoncer une vérité capitale, une vérité essentielle, une doctrine essentielle, c'est la doctrine de l'incarnation. Vous savez ce que c'est l'incarnation ? Dieu fait chair. C'est une des composantes essentielles de notre foi. Une doctrine primordiale pour le christianisme. Dieu fait chair, Dieu fait homme. Dieu venu s'approcher des hommes afin de leur offrir le pardon des péchés, leur offrir la vie éternelle. Le Dieu infini, le Dieu illimité qui accepte les limites de l'humanité, les conditions de l'humanité, afin de vivre, de mourir pour sauver ceux qui mettent leur confiance en lui. Voilà ce que Dieu a voulu appuyer quand il a parlé de cette naissance plusieurs siècles déjà avant. Alors nous ne savons pas effectivement quelle est la date précise de la naissance de notre Sauveur, mais qu'importe. Si la Bible souligne cette naissance avec force, rien ne nous empêche de nous souvenir avec émotion, avec humilité, qu'un jour, Dieu, à cause de son amour pour nous, s'est fait petit enfant en s'incarnant en Christ. Donc c'est une raison pour laquelle nous devons considérer quand même cette période, même si on peut se dire que ce n'est pas seulement dans cette période de fin d'année qu'on s'en souviendrait, comme qu'il faut s'en souvenir tous les jours de notre vie, bien entendu. Ça, c'est la première grande affirmation. La naissance de Jésus est un événement biblique. Deuxièmement, la naissance de Jésus, on l'a vu dans ce passage, c'est un sujet de joie, de reconnaissance, d'adoration, de louange. À plusieurs reprises dans la parole, nous voyons que la naissance de Jésus provoque cette joie-là, cette reconnaissance. On a vu ce qui était écrit « Quand les mages aperçurent l'étoile, ils furent remplis » au verset 10, « d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent l'enfant avec Marie, sa mère, tombant en genoux, lui rendirent hommage. Ils ouvrirent leur coffret, lui offrirent des cadeaux. » Donc Jésus reçoit des présents dignes d'un roi venant de cœurs reconnaissants, alors qu'il n'est encore qu'un petit enfant qui vient de naître. Et les mages font preuve d'une adoration, d'une attitude d'adoration profonde. Se mettre à genoux, c'est une attitude d'adoration profonde. Parce qu'ils savent que qui est Jésus ? Le roi des Juifs. Et quand Marie est aussi enceinte par la vertu du Saint-Esprit, qu'elle se rend compte qu'effectivement l'enfant qu'elle porte, l'enfant qui va naître quelques mois plus tard, est le Fils de Dieu, elle ne peut s'empêcher aussi, inspirée par le Saint-Esprit, de chanter un cantique de reconnaissance. On ne l'a pas lu tout à l'heure, mais dans Luc au chapitre 1, au verset 46 à 55, il y a un cantique qu'on appelle le Magnificat, un cantique de reconnaissance et d'adoration. « Mon âme chante la grandeur du Seigneur, mon esprit se réjouit à cause de Dieu, mon Sauveur. » Pourquoi ? Parce que Dieu l'a choisi pour porter cet enfant si spécial. Dans l'évangile de Luc aussi, dans le chapitre 10, après la naissance de Jésus, il y a un ange dans les champs qui vient pour annoncer la nouvelle au berger. Il dit « Je vous annonce une nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une très grande joie. Un sauveur vous est né aujourd'hui dans la ville de David. C'est lui le Messie, le Seigneur. Et après cela, qu'est-ce qu'ils font les bergers? Ils louent, ils glorifient Dieu. Et de plus, il y a aussi une multitude d'anges, une myriade, des myriades et des myriades d'anges qui chantent les louanges de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Même chose pour Siméon et Anne. Vous connaissez ces deux personnes âgées dans le temple qui attendaient ce moment de la naissance de Jésus. Depuis si longtemps, ils se laissent aussi aller à la louange, à l'adoration, dans Luc au chapitre 2 toujours. Alors, chers amis, la naissance de Christ, c'est le plus grand événement, de l'histoire, avec, bien entendu, la mort et la résurrection de Jésus sur la croix, mais ça a commencé d'abord par la naissance de Christ. Son œuvre a commencé par sa venue sur cette terre. Nous nous réjouissons pour des naissances dans notre famille ou dans notre église. Par exemple, le petit Pascal, Thiboulin, ça a été un sujet de joie. Les naissances sont des joies en général. C'est peut-être pas vrai pour tout le monde, il y a des naissances qui sont tristes, semble-t-il. Mais en général, quand même, les naissances sont des jours où voilà, on se doit de remercier le Seigneur d'être dans la joie. Comment ne pas nous réjouir à l'évocation de la naissance de Christ? Comment ne pas nous réjouir à l'évocation de la naissance de celui qui allait changer une multitude de vies humaines et qui aujourd'hui continue de toucher les cœurs dans le monde entier? Comment ne pas nous réjouir à l'idée que Jésus est venu et est né et pour nous apporter le salut? Vous savez, Jésus-Christ, ça signifie l'éternel sauve. Et le salut rime avec la joie d'être sauvé. Je ne sais pas si c'est votre cas, si vous êtes sauvé, est-ce que quand vous avez su que votre âme irait avec le Seigneur, est-ce que ça vous a rempli de tristesse? Non, j'espère que non en tout cas. Rempli de joie. Alors, comme je le disais tout à l'heure, n'attendons pas les fins d'année pour manifester notre reconnaissance. Nous sommes appelés à le faire tous les jours de notre vie. Mais nous pouvons le faire d'une manière un peu plus spéciale pendant cette période de Noël. Deuxième grande affirmation, donc la naissance de Jésus est un sujet de joie. Et troisièmement, la naissance de Jésus, c'est une bonne nouvelle à partager. Dans Luc, au chapitre 2, versets 8 à 17, quand les bergers ont connaissance de cette naissance de Christ, ils courent voir le bébé et répandent la nouvelle autour d'eux. Et toujours dans Luc, chapitre 2, verset 38, on parlait tout à l'heure de Anne. Eh bien, Anne, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle louait Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient que Dieu délivre Jérusalem. Elle ne pouvait pas s'empêcher de raconter qu'elle avait vu Jésus. Alors, j'aimerais dire, soyons comme les bergers, soyons comme Anne. Profitons de ces fêtes de fin d'année, de cette fête de Noël, pour parler de notre foi en Jésus-Christ. Profitons-en pour parler de ce que Jésus a fait dans nos vies. Demandons à Dieu de préparer les cœurs de personnes qu'il mettra sur notre route. Alors ça pourra être lors d'une rencontre familiale, dans un repas familial. C'est souvent l'occasion, pendant ces périodes de fin d'année. Il y a peut-être des non-chrétiens qui seront là. Ils auront peut-être d'autres occasions que Dieu nous donne. Et nous avons encore des calendriers, nous avons des éphémérides, nous avons aussi, je vous dis, nous avons plein d'évangiles de Luc pour ceux qui en veulent, n'hésitez pas à me demander. Et qui ne demandent qu'à être distribués, à être donné, à être offert. Une semaine, enfin une dizaine de jours avant le spectacle du 15 décembre, certains d'entre nous ont distribué des invitations, des calendriers, des évangiles, et notamment au marché de Noël. Et avant cela, nous avons pris le temps de prier afin que le Seigneur Jésus prépare les cœurs et apaise aussi nos craintes, nos appréhensions, parce que toujours une petite appréhension, comment est-ce qu'on sera reçu, etc. Parce que l'ennemi veut toujours aussi décourager la diffusion de la parole de Dieu. Et moi, je peux vous dire que le Seigneur nous a vraiment précédés. J'étais personnellement encouragé. J'étais en binôme avec Jérémy. Et je sais qu'ensuite, il y a eu d'autres qui sont venus avec Jean-Yves, et aussi Pierre qui était venu. Mais en tout cas, j'ai été personnellement encouragé par l'accueil général qui a été fait par celles et celles que nous abordions. Une bonne majorité acceptait de bonne grâce, acceptait gentiment un évangile, un, un, calendrier, l'invitation. Et même, il y en a qui acceptaient d'entamer une conversation autour de la foi chrétienne. Et vraiment, j'ai été encouragé. Donc, ces distributions ne sont pas forcément une goutte dans l'océan. À la preuve, il y a une jeune femme qui était venue avec son fils suite à la distribution d'une invitation. Et certains, semble-t-il, sont venus suite aussi à des invitations qui ont été dans leur boîte aux lettres. Donc, ça encourage. Mais ce que je veux dire par là, c'est que Noël est un des uniques moments dans l'année où les gens ont une certaine ouverture d'esprit, une certaine sensibilité par rapport aux choses religieuses. Et c'est de plus en plus rare de nos jours, hein, particulièrement dans notre société dite civilisée, très rationnelle, très matérialiste. La période de Noël, c'est un boulevard que le Seigneur nous ouvre pour partager massivement la parole de Dieu, le message de l'Évangile. C'est une possibilité de témoignage qui nous est offerte, j'allais même dire, qui nous est offerte sur un plateau. Une occasion pour parler de ce mystère de l'incarnation, doctrine essentielle. Alors, un chrétien peut-il fêter Noël? C'était ma question au début. Alors, vous aurez certainement compris, vu le développement que je vous ai proposé, que je suis favorable à cela et que notre Église aussi est favorable à cela. Mais il y a une mise en garde. Donc je répondrai oui, mais Noël peut comporter des pièges. Je ne sais pas si vous vous souvenez certainement de cet attentat meurtrier à Strasbourg, il n'y a pas tellement longtemps, hein, au marché de Noël. Les gens ont été choqués, bien sûr. Et j'ai entendu une interview d'une personne qui a souhaité que très vite, l'esprit de Noël puisse reprendre le dessus. J'allais dire, voilà le piège. Le piège, c'est l'esprit de Noël. Le danger, mes amis, c'est de nous laisser entraîner par cet esprit de Noël. À mon sens, c'est un esprit d'égarement, envoyé par l'ennemi, le prince de ce monde, dont le but est de détourner l'homme de Dieu. L'esprit de Noël, c'est quoi, me direz-vous? Ce sont toutes ces légendes, tous ces mythes qui gravitent autour de la fête de Noël. Des légendes qui visent à remplacer Dieu par des personnages imaginaires. Peut-être que ce n'est pas la peine de vous faire un dessin. Personnellement, quand je vois des enfants se mettre à genoux, quand je vois des enfants écrire des lettres à destination d'un bonhomme avec un bonnet rouge.
En Finlande.
Oui. On appelle le Père Noël. Peut-être que je vais choquer quelqu'un, mais moi je trouve qu'il y a là une vaste tromperie de la part du diable. Qui veut usurper la gloire de Dieu et qui veut détourner l'homme de la dépendance à Dieu pour le rendre dépendant à ce type de légende ou de mythe. Pas tout le monde, heureusement. Mais là, je vais être un peu direct et peut-être que je vais choquer, peut-être même que je vais me faire des ennemis, je ne sais pas, mais j'ose faire croire à nos enfants ou à nos petits-enfants qu'un Père Noël va arriver par la cheminée pour leur apporter les cadeaux qu'ils ont demandés. Ce n'est pas la meilleure manière de transmettre des valeurs chrétiennes. Ça ne donne pas un bon témoignage de notre foi. Peut-être que je choque, hein, aujourd'hui. Mais si nous agissons de cette sorte, nous ne faisons ni plus ni moins que mentir à nos enfants, à nos petits-enfants ou à nos arrière-petits-enfants. Et les enfants sont fragiles et crédules. Ce n'est pas un bon départ pour eux. Gardons-nous de cautionner ou de relayer de manière complaisante toutes ces inventions, toutes ces traditions qui ont pour effet d'éloigner du Seigneur. Nous allons faire le jeu du diable en le faisant. L'esprit de Noël, c'est aussi, on va dire, le consumérisme effréné. Vous savez ce que c'est le consumérisme ? Voilà. C'est cette tendance à toujours consommer, hein, qui pousse à dépenser donc de l'argent, parfois à la limite du raisonnable, pour se laisser aller à tous les excès. Les excès de table. Oh, c'est que Noël, hein. Une fois dans l'année, on va se laisser aller à des excès, hein, parfois l'ivronnerie, j'espère pas pour nous. Tout cela est cité parmi les attitudes condamnables, des œuvres de la chair, dit la parole dans Galates au chapitre 5. Quelqu'un avait dit que Noël, ce n'est pas pour rendre hommage à Crésus, c'est rendre hommage à Jesus. Et par ailleurs, il y a l'esprit de Noël qui veut aussi donner ce caractère sacré à Noël, un caractère magique. On parle de la magie de Noël. C'est devenu une expression courante, hein. Et j'allais même dire, même dans le milieu chrétien, « Ah, la belle fête, on a vu la magie de Noël, cette belle fête. Ouais, » ouais. Mais bon, qu'est-ce qui nous fait croire que Noël est un jour magique ? Qu'est-ce qui nous fait croire qu'à Noël, il y aura des miracles spéciaux, des choses extraordinaires et pas les autres jours de l'année ? Quand on voit de la neige à Noël, « Ah, la magie de Noël !» Il peut neiger aussi le lendemain ou trois jours après. Il y a quelque chose là, une matière à réflexion. Faire attention aux mensonges, aux philosophies diaboliques qui visent à emprisonner l'homme dans des superstitions et l'éloigner de la vérité biblique, de la dépendance de Dieu. Un passage qui dit dans Colossiens chapitre 2, verset 8, que personne ne vous prenne au piège par la philosophie, par des tromperies sans fondement qui s'appuient sur des traditions humaines, sur les principes élémentaires qui régissent le monde et non sur Christ. Alors, certes, il y a probablement des bonnes traditions. Des traditions saines, notamment quand elles nous permettent, ces traditions-là, de consolider nos liens familiaux, d'entretenir la communion fraternelle. On dit que le sapin de Noël, c'est quelque chose de païen, semble-t-il, pas forcément. Je crois que cette tradition est apparue en Alsace, hein, il me semble. Peut-être que quelqu'un peut me semble-t-il, il n'y a rien forcément de païen. C'est, voilà, on voit que le sapin est un arbre qui résiste bien à l'hiver, puis bon, ça décore bien. Mais il n'y a rien de mal non plus à nous laisser ravir les yeux par la beauté des décorations, des illuminations. C'est joli à voir. Pourquoi pas toute l'année, ce serait bien aussi de les avoir, ces illuminations. Simplement, veillons à ne pas nous laisser engloutir par toutes ces traditions humaines, d'une manière générale, mais aussi d'une manière particulière autour des fêtes de Noël. Veillons à ne pas nous retrouver sous le joug des coutumes. Ah ben à Noël, j'ai pas acheté un cadeau, alors là je suis mort. Pas de foie gras, oh là là là, pas de champagne, c'est... catastrophe. Quelque part, il y a le joug des coutumes, il y a cette pression. Hein. Considérons Noël comme une opportunité pour nous rappeler d'une manière spéciale la naissance de Jésus. On peut le faire en nous réjouissant autour du souvenir de cet événement, en famille, avec des amis, entre frères et sœurs, ici à l'église. On l'a fait, mais tout en veillant à honorer Dieu dans nos comportements et à rappeler la véritable signification de cet événement. Considérons Noël donc comme une opportunité aussi de témoigner de notre foi, d'annoncer la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Et cette bonne nouvelle, elle n'a pas changé, elle est toujours la même. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque place sa confiance en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est un message qui est adressé à nous en cette période de fin d'année, de Noël, peut-être pour nous positionner par rapport à cela. Comment est-ce que je suis par rapport à Jésus aujourd'hui ? Est-ce qu'il est mon Seigneur, mon Sauveur ? Si je suis là ce matin, est-ce que c'est par tradition ? Parce que le 23, c'est pas loin de Noël, allez, on va pour le culte de Noël. Ou c'est vraiment parce que nous avons soif du Seigneur, ou est-ce que c'est parce que nous avons envie de louer le Seigneur pour ce qu'il est, louer le Seigneur pour l'œuvre qui a été accomplie en Jésus-Christ, louer le Seigneur pour cette venue, cette incarnation de Dieu. C'est quelque chose de merveilleux de savoir que Dieu est venu s'approcher des hommes en tant qu'humain, il a vécu parmi nous. C'est extraordinaire, tout à l'heure, il y a une prière, je crois que c'est Jean-Marc qui a dit que, oui, Jésus est notre frère. Il nous appelle ses frères, ses amis. C'est quelque chose d'extraordinaire. Qu'allons-nous faire alors aujourd'hui, face à ce message de l'Évangile ? Prions. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour ce temps où tu nous as permis de réfléchir sur le sens de la naissance de ton Fils, Jésus-Christ. Et c'est vrai, Seigneur, que c'est un événement tellement essentiel qui a changé beaucoup de choses et qui nous a changé aussi, Seigneur, a changé notre cœur en sachant que ce Jésus était venu pour nous réconcilier avec toi. Nous qui étions séparés de Dieu, nous qui étions aveugles, nous qui étions dans les ténèbres, eh bien, Seigneur, tu es venu comme une lumière pour nous apporter vraiment la vérité et pour nous montrer que nous étions perdus sans toi et nous montrer aussi le chemin qui mène à toi. Merci Seigneur pour tout ce que tu es, pour toute ton œuvre que tu as accomplie sur cette terre, pour ta naissance, pour le sacrifice sur la croix, pour la résurrection et pour le fait que tu es vivant au siècle des siècles. En ton nom, nous prions. Amen.